Chapitre 41. Dernières heures. Samedi 15 décembre, la veille du meurtre. 19h05. L'annonce du nouveau président n'avait pas eu lieu. La soirée du grand week-end sombrait dans le chaos. Un mal mystérieux décimait les invités. Dans la salle de bal, le spectacle était hallucinant. Les gens se tordaient sur le sol en gémissant. C'était une véritable pandémie. Macaire, au milieu des cris et de la cohue, ne sachant que faire, décida d'aller se réfugier dans sa chambre. Pour ne pas avoir à attendre l'ascenseur, il emprunta les escaliers, mais à peine avait-il commencé à en escalader les marches qu'une voix l'interpella.
« C'est à cause de toi, tous ces merdiers ?»
C'était Tarnogol. Macaire descendit les quelques marches qui le séparaient de Tarnogol et le toisa. « C'est à cause de moi, » dit-il. « Ou peut-être à cause de vous, signor. Vous vouliez tellement m'empêcher de devenir président. Pourquoi, au fond? Tous ces gens risquent de mourir par votre faute. « Tout commence ou tout finit ?» murmura Tarnogol. « Je vous demande pardon. »« Tout commence ou tout finit, Macaire. Regarde où nous sommes, au palace des Verbiers, un soir de grand week-end de la banque. Là où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, il y a exactement 15 ans. Et c'est ce soir que tout s'est fini, ici même. Je ne me fais aucune illusion. La P30 aura ma peau. C'est très probablement la dernière fois que nous nous voyons, Macaire. » Tarnogol semblait résigné. Il tendit la main à Macaire pour le saluer. Ce dernier ne réagit pas et Tarnogol retira sa main avant d'ajouter
« Au moment de tirer ma révérence, je dirais que j'ai passé ma vie à la perdre. À trop vouloir gagner d'argent, à trop vouloir diriger le monde, à vouloir toujours plus de pouvoir. À trop vouloir déterminer le destin des autres, on oublie qu'on ne peut influencer que le sien. Au revoir, Macaire. Demain, lorsque le palace reprendra ses esprits, un seul nom résonnera entre les murs. Celui de Lev Levovitch, le nouveau président de la banque Besner. »
Sur ces mots, Tarnogol fit demi-tour et redescendit les marches de l'escalier. En bruit de fond, on pouvait entendre le chaos qui régnait dans la salle de bal et les sirènes des véhicules de secours qui affluaient de toute la région. Macaire regarda s'éloigner le vieil homme rongé par les regrets, et il songea qu'il ne voulait pas finir comme lui. Ce soir, le destin lui avait donné une dernière et miraculeuse chance. Récupérer la présidence. Réparer la brèche qu'il avait percée dans son destin 15 ans plus tôt en cédant ses actions. Il était encore jeune. Il avait tant de belles années devant lui. Il pouvait décider à cet instant de reprendre les rênes de sa vie. Les mots de Tarnogol résonnaient dans sa tête. On ne peut pas influencer le destin des autres, mais on peut influencer le sien.
« Signor, attendez !»
s'exclama alors Macaire. Tarnogol s'arrêta net et se retourna.
« C'est d'accord, » lui dit Macaire.
« D'accord quoi ?»
Macaire dévala les marches jusqu'à Tarnogol. « J'accepte votre échange, signor. Donnez-moi la présidence et reprenez ce qui vous appartient. »
« Tu es certain ?»«
Oui.
Tu es prêt à perdre Anastasia ?»«
Une partie de moi se demande si je ne l'ai pas déjà perdue. »
Tarnogol le dévisagea gravement. Macaire poursuivit. « Mardi, elle a reçu un gigantesque bouquet de roses blanches. De la voisine, qu'elle a dit. Mais voyez-vous, j'ai parlé à la voisine qui m'a détrompé. » Tarnogol acquiesça, comme s'il compatissait. Il lui annonça.
« Demain, Macaire, tu te réveilleras président de cette banque. »
Les deux hommes échangèrent une longue poignée de main. Puis Macaire remonta les escaliers vers le 6e étage. La voix de Tarnogol le rattrapa une dernière fois.
« Macaire, » dit-il, « tu feras un bon président. »
Macaire, sans s'arrêter, sourit. Il eut l'impression qu'il avait enfin gagné. Dans la salle de bal et tout autour, la cohue et les cris ne cessaient pas. Dans le désordre général, les secouristes s'affairaient à évacuer les malades jusque dans le hall de l'hôtel pour les trier, certains étant plus atteints que d'autres. Anastasia, au milieu de cette mêlée humaine, cherchait désespérément Macaire et Lev. Elle ne les trouvait pas dans le hall ni dans la salle de bal. Finalement, parcourant le couloir qui menait aux toilettes, elle trouva Lev sur la moquette, pliée en deux.
« Lev !» s'écria-t-elle en se précipitant vers lui. « Mon Dieu, Lev, que t'arrive-t-il »
Il était pris de convulsions. Il ne pouvait plus parler. Il émit un long râle. Elle comprit qu'elle était en train de le perdre. 15 années plus tôt, le grand week-end.
Le vendredi matin à l'aube, Lev quitta Genève pour Verbier. Il n'avait presque pas dormi de la nuit. La veille, après avoir compris qu'Anastasia ne viendrait pas au rendez-vous à l'hôtel des Bergues, il était rentré chez lui, le cœur navré, et il avait téléphoné à son père. Il lui avait tout raconté. La douleur d'être rejeté, de se voir préféré à un autre. Et seul Levovitch avait maudit cette jeune femme qui faisait tant souffrir son fils.
« Viens, Verbier, demain !»
avait alors suggéré Sol. Lev avait décliné. « Je n'ai aucune envie de participer à ce grand week-end de malheur. Pour y croiser tous les collègues, Anastasia et Macaire, merci beaucoup. »«
Viens, et nous partirons. Je te remonterai le moral. Nous pourrions aller à Zermatt, passer le week-end ensemble. Ça fait longtemps que nous n'avons pas fait un petit voyage tous les deux. »
Lev ne savait plus très bien ce qu'il voulait. Mais il avait accepté. Il avait dit à son père qu'il prendrait le train de 9h30 et qu'il serait à Verbier aux environs de midi.
« Nous irons faire un bon déjeuner. Tu vas voir, ça va te remonter le moral. »
Lev s'était senti épuisé. Mais allongé sur son lit, il avait été incapable de s'endormir. Au mieux, avait-il fermé les yeux quelques dizaines de minutes, sombrant dans un demi-sommeil, avant de se réveiller en sursaut. Il pensait aussitôt à Anastasia et se tordait de douleur. Il ne comprenait pas. Il avait besoin de lui parler. Avant d'aller à Zermatt avec son père, il irait la trouver au palace de Verbier et lui demanderait des explications. Il avait regardé les heures défiler. Finalement, à 4h30, il avait fait son sac. À 5h, il s'était mis en route pour la gare Cornavin. À 5h30, il montait dans le premier train pour Martigny. De là-bas, il prendrait une correspondance pour le Châble, puis le bus jusqu'à Verbier. À 5h30, étendu sur le carrelage glacé de la salle de bain sur lequel elle avait fini par s'endormir, Anastasia se réveilla. Elle constata que la porte de la pièce était ouverte. Elle se glissa discrètement jusqu'à sa chambre et attrapa quelques affaires qu'elle jeta au fond d'un sac et se précipita vers la porte d'entrée. Au moment où elle s'apprêtait à quitter l'appartement, elle entendit la voix de sa mère gronder derrière elle, cachée dans l'obscurité. « Anastasia, si tu franchis cette porte, tu n'as plus de maison !»« Maman, je... » Olga alluma la lumière et montra à sa fille un visage de marbre. « Il est temps que tu fasses honneur à ton rang, sale petite menteuse !» Anastasia dévisagea longuement sa mère. Olga, comprenant alors que sa fille s'apprêtait à la défier et partir, s'écria « File, va rejoindre ton vagabond. Va vivre une vie de misère, mais je ne veux plus te revoir !» Anastasia s'enfuit. Elle dévala les escaliers de l'immeuble et s'enfuit dans la rue, dans l'aube glaciale, son petit bagage à la main. Elle courut aussi vite qu'elle le put dans l'espoir de retrouver Lev. Elle rejoignit le bord du lac Léman, puis traversa le pont du Mont-Blanc. À cette heure-ci, tout était désert. Elle passa le jardin anglais et arriva finalement dans le quartier des Eaux Vives. Quelques minutes plus tard, elle entrait enfin dans l'immeuble où vivait Lev. Elle gravit 4 à 4 les marches des escaliers jusqu'à son étage, puis elle tambourina longuement contre sa porte, en vain. Pas de réponse. Sans doute dormait-il profondément. Dans sa précipitation, Anastasia avait laissé chez sa mère le double des clés qu'il lui avait confié. Elle était coincée dehors. Elle attendit près d'une heure assise sur le paillasson. Elle frappa encore à la porte, jusqu'à ce qu'elle comprit qu'il n'y avait personne. Il était probablement déjà parti pour Verbier. Elle se dépêcha de rejoindre la gare Cornavin. À 7h du matin, le visage défait, elle prit place dans un wagon de 2e classe en direction de Martigny. Aussitôt qu'elle retrouverait Lev, elle lui expliquerait tout. 7h15. Lev descendit du train à la gare de Martigny. Durant le trajet, il avait repris espoir. Si Anastasia n'était pas venue à l'hôtel des Bergues, c'était certainement pour une raison sérieuse. Elle avait été retenue ou empêchée. Il regrettait à présent sa réaction à chaud. Il avait quitté Genève si précipitamment. Il aurait dû aller la guetter en bas de chez elle. Allait-elle venir à Verbier? Et si elle l'attendait, lui, à Genève? Il hésita à prendre un train en sens inverse, avant de considérer qu'il valait mieux se rendre au palace. Elle y viendrait forcément. À Martigny, comme il y avait un peu d'attente avant le premier train pour le Châble, il décida d'aller boire un café au chaud, à l'hôtel de la gare. Assis à l'intérieur, dans l'agitation des nombreux clients qui prenaient leur petit déjeuner, il observait par la fenêtre la rue déserte et la petite place. Il venait de payer sa consommation et s'apprêtait à s'en aller lorsque, à sa grande surprise, il vit son père dans la rue, une valise à la main. Qu'est-ce que son père faisait ici, et avec une valise? S'apprêtait-il à quitter Verbier? Sol Levovitch entra dans l'hôtel justement, où il se mêla aux autres clients. Lev, sans se montrer à lui, ne le quitta pas des yeux. Son père traversa le hall. Lev le suivit. Il eut soudain le pressentiment que quelque chose ne tournait pas rond.
mais il était loin d'imaginer ce qu'il s'apprêtait à découvrir.